La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
Liliane Binas, 6 ans. Shulem Birkenfeld. Frimka Bronstein, Sigmund Bronstein. Jeanne Bronstein, 8 mois. Emily Brunlich. Gerda Epstein. Joseph Herson. Chaskel Frank. Hertha Frank, Els Hirsch, Hedwig Hirsch, Otto Hichstein, Selma Hichstein, Sigmund Immerglück, Paul Kochner, Leona Kochner, Porez Kurzweil, Heinrich Limmann, Norbert Linker, Gertrud Linker, Bernard Linker, 14 ans, Kurt Linker, 6 ans.
Prendre le temps de bien prononcer chaque prénom et chaque nom. Au village de Reyan, c'est le jour de la commémoration. On se souvient de la dernière rafle opérée par les autorités de Vichy sur le territoire français à la demande des nazis en mai 1944. On s'est rassemblés pour évoquer chacune des 54 vies arrachées à l'humanité. 54 juifs étrangers d'origine russe, polonaise, tchèque ou germano-autrichienne déportés et assassinés dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. À l'heure où les derniers témoins disparaissent, il est plus que jamais nécessaire de raconter avec précision l'histoire de chaque enfant, de chaque femme, de chaque homme assassiné par les nazis à Auschwitz parce que juif. De leur dernier domicile connu jusqu'à Auschwitz, ce sont des histoires de vie que nous écrit notre invitée historienne Annette Becker dans son dernier livre, Des Juifs trahis par leur France, avec autant de précision que ses longues recherches dans les archives lui ont permis de le faire. Bonjour Annette Becker.
Bonjour.
Dans ce livre publié dans la collection Témoins chez Gallimard, vous savez nous raconter des vies en mots d'amour, en supplications, en souffrance. Des vies en croyance de la France, patrie des droits de l'homme, des vies jusqu'au bout en résistance. Celle du camp de Reyan, village du sud de la France dont nous allons partager avec nos auditeurs la commémoration. Celle du célèbre peintre Otto Freudlich, soutenu jusqu'au bout par son amoureuse Jeanne Kosnick-Kloss. Celle aussi de votre grand-oncle Pierre Ignace, raflé le 12 décembre 1941, interné à Compiègne, puis déporté à Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 1 du 27 mars 1942. Pour quelle raison, Annette Becker, avez-vous choisi cette écriture de l'intime, 80 ans après le 27 janvier 1945 et l'arrivée des soviétiques sur les lieux mêmes du camp d'extermination déserté par les nazis?
Je pense que faire de l'histoire, c'est redonner une vie, redonner une photographie, si on fait de l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, redonner un nom à ceux qui ont disparu. Et quelle qu'ait été leur vie, qu'ils soient célèbres pendant leur vie, ou qu'ils ne soient pas, qu'ils soient simplement des anonymes, essayer, grâce aux archives, de leur rendre tout ce qu'ils ont été, tout ce qui a fait leurs amours, leurs haines, leurs soucis, leurs souffrances. Et dans ce cas précis, celui du ciblage des Juifs européens pour les envoyer à la mort, essayer de comprendre qui ils étaient. Ils ont été pour les nazis simplement des déchets, des pièces à exterminer. Or, c'était des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, comme vous l'avez dit, Valérie. Et c'est comme cela que je voulais qu'ils apparaissent.
Ce titre, Des Juifs trahis par leur France, est également du registre de l'intime. Et je pense notamment à la correspondance amoureuse de Jeanne et d'Otto. J'ai relevé énormément d'extraits, mais il faut bien que j'en choisisse un. Donc je vais aller à page 23 de votre livre, Annette Becker. Lui, Otto, écrit « Je trouve pas les mots pour exprimer mon dégoût pour cet individu qui est la cause de cette guerre. » Jeanne lui répond « On connaîtra bientôt ton honnêteté et ton grand cœur, ton amour profond pour notre France chérie, notre vraie et merveilleuse patrie de choix, pour laquelle nous créons avec toute notre conscience d'artiste. Et quel peuple héroïque et grand, enthousiaste et courageux, et quel cœur, ce du peuple de France qui reste humain jusqu'au bout, qui ne change pas. J'étais sidérée en lisant cet échange de correspondance entre Otto et Jeanne.
C'est d'abord un couple merveilleux. Un couple qui s'aime. Ils se sont rencontrés déjà un peu âgés et c'est un amour extraordinaire. Et ils s'écrivent beaucoup, ce qui nous permet d'être des témoins, quelquefois indiscrets, de ce grand amour. Mais évidemment, pour l'historienne que je suis, ce sont des documents extraordinaires. Et puis par ailleurs, elle est lettonne et lui est allemand. Et ils ont choisi la France pour se réfugier, elle ne risquant pas grand-chose puisqu'elle est lettonne et non juive, mais lui étant juif et allemand, et peintre de l'abstraction, considéré comme dégénéré par les nazis. Lui, il a beaucoup de choses qui lui sont reprochées par les nazis. Et donc, réfléchir à cet amour pour la France, au moment où, réfugié en France, il va connaître deux chocs extraordinaires. Le premier choc, c'est qu'est la déclaration de guerre en 1939, la Troisième République, interne les étrangers, même s'ils sont des réfugiés, même s'ils sont patriotes. Et cela donne quelque chose d'assez extraordinaire. Il est en camp au moment de cette lettre que vous lisez. Alors, ce sont des camps d'internement qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appellera camps de concentration dans le régime nazi, ou qu'on appelle déjà, puisqu'il en existe depuis 1933. N'empêche que, il est privé de sa liberté et il est privé de son amour. Mais son amour pour la France et leur amour pour la France est si grand qu'ils réagissent d'abord comme réagissent l'ensemble des Français quand l'Allemagne les attaque.
Et cette croyance en la grandeur de la France et en la grandeur des Français est partagée par votre grand-oncle Pierre Ignace, juif français, mobilisé depuis août 1939 à l'hôpital militaire de Melun, qui se retrouve donc interné dans le camp de Compiègne. Mais il est juif français.
Alors, on voit là toute la différence entre les internements de la Troisième République contre les étrangers et les internements de la France de Vichy. Parce que entre le moment où mon grand-oncle et tous ses camarades de détention à Compiègne ont été raflés de façon atroce au mois de décembre 1941, eh bien, il s'est passé, un, la défaite de la France, deux, la venue au pouvoir du maréchal Pétain et le statut des Juifs d'octobre 1940. Et là, les Juifs français ont été mis au banc du pays, au banc de l'État français, puisque la République aussi a disparu. Sauf que la République a disparu de sa belle mort, tandis que les Juifs français, ils étaient toujours sur le territoire, de même que les Juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en France à un moment ou un autre. Et désormais, eh bien, la chasse aux Juifs est ouverte. Et le camp de Compiègne, pour le coup, est un vrai camp de concentration particulièrement atroce. Et c'est particulièrement difficile pour mon grand-oncle, mais il est relativement jeune. Mais la masse de ceux qui sont internés à Compiègne sont ce qu'on a appelé les notables. Ils ont été raflés dans la rafle des notables. Les Allemands voulaient dire aux Français que personne des Juifs n'étaient à l'abri et que même leurs polytechniciens, leurs juges, leurs médecins, du moment qu'ils étaient Juifs, eh bien, on les mettrait à l'écart. On les a donc raflés, on les a entassés dans des conditions épouvantables dans ce camp de Compiègne, mais il n'y avait pas encore de déportation. Et puis, elles ont fini par arriver.
Et dans ce camp de Compiègne, Pierre Ignace, votre grand-oncle, et en solidarité avec d'autres hommes, notamment Henri Lang, son ami. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il voudrait, des rubans rouges pour la Légion d'honneur et puis des rubans verts pour la Croix de guerre. Je rappelle que nous sommes en 1941. Comment vous comprenez leur désir d'accrocher leurs décorations d'anciens combattants?
Eh bien, on est de nouveau, pour ce qui se passait pour les Juifs allemands qui aimaient la France et qui auraient voulu que la France tienne dans la Deuxième Guerre mondiale comme elle avait tenu dans la Première. Et là, c'est la même chose. Ces hommes, ces Français, qui sont pour l'essentiel des anciens combattants, soit de 14-18, soit de 39-40, et qui ont, au combat, gagné ces décorations. Et au début, ils sont au secret. Et puis, au bout d'un mois de ce régime épouvantable, ils ont le droit de correspondre avec leurs femmes. Ils leur demandent avant tout de la nourriture physique, parce qu'ils crèvent de faim, littéralement, et de froid. Mais en même temps, ils leur demandent un soin spirituel. Et comment avoir plus de ferveur que dans cet amour pour la patrie qu'ils continuent à montrer, et qu'ils montrent en particulier en portant leurs décorations.
Et ils croient dur comme fer jusqu'au bout à cette bienveillance de la patrie française. Et vous écrivez, Annette Becker, « Ni Pétain, ni la hiérarchie française, ni la hiérarchie allemande ne leur signeront jamais rien. Enfin si, la dérogation arrivera fin 1943 pour Henri Lang, un an et demi après sa disparition à Auschwitz. » De Reyhan à Auschwitz, des Juifs trahis par leur France. C'est notre épisode dédié à la mémoire de chacune des victimes de la Shoah. Victimes dont il est essentiel de dire le prénom et le nom, comme l'a fait notre invitée historienne Annette Becker, et toutes celles et ceux qui se souviennent de la dernière rafle opérée sur le sol français en mai 1944. Un reportage de Daphné Gastaldi pour RFI.
Bonjour à tous. Un plaisir de voir beaucoup de monde ici aujourd'hui. Reyhan, 1944-2024, 80 ans après la rafle, la dernière rafle de Juifs en France, la commune se souvient.
Alors je suis Isabelle Grenu, adjointe à la culture et au patrimoine à Reyhan. Alors nous sommes au lieu dit Le Couvent, Notre-Dame-des-Prés, qui a été un ancien camp d'internement pour étrangers indésirables, selon la terminologie de Vichy, à partir de 1942. Et aujourd'hui, on va dévoiler une plaque commémorative, qui est une nouvelle plaque, parce qu'il y en a une qui a été installée déjà dans la propriété en 1994, et qui se situe en dehors de la propriété, donc qui sera accessible à tout le monde. Et c'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. Et c'est un partenariat peu habituel entre une commune, un lycée des métiers, donc des élèves de métallerie, d'art appliqué, et une historienne, Annette Becker. Donc c'est vraiment l'émulsion a vraiment pris depuis 2022. On travaille à ce projet. Et aujourd'hui, voilà, on a les habitants du village, des personnalités. C'est important.
Isabelle Grenu, vous avez vous-même une formation d'historienne. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une nouvelle plaque réactualisée avec des faits plus précis aujourd'hui ?
C'est une grande satisfaction parce qu'on voit l'histoire qui s'écrit.
80 ans après jour pour jour, la plaque vient d'être inaugurée. On peut lire, ici à Reyhan, dans l'ancien couvent Notre-Dame-des-Prés, les autorités de Vichy ont établi en 1942 un camp pour étrangers indésirables. Le 12 mai 1944, 54 juifs, enfants, femmes, hommes y ont été raflés par des membres de la Gestapo de Marseille, puis ont été déportés à Auschwitz-Birkenau.
Plutôt qu'un devoir de mémoire, pour moi, c'est un devoir d'histoire d'abord.
Surtout que ce lieu, cet ancien camp, a eu plusieurs vies. On voit une piscine à gauche, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est la piscine qui a été installée quand la colonie de vacances de la ville de Paris a pris possession des lieux dans les années 60, 1960, hein, à partir de 63. Donc ils ont réaménagé beaucoup les lieux, construit une aile, l'aile nord, là, qui n'existait pas à l'époque du camp. Une piscine, divers aménagements, ils ont enlevé un clocher, qui était le clocher qui était identique à celui de Reillanne, de l'église Saint-Denis. Voilà, on est devant presque un palimpseste. Hein. On voit peu à peu, en regardant bien les lieux, on voit les diverses occupations de ce site. Alors aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe pour des mariages.
D'où l'importance de mettre la plaque.
Exactement. Appuyer sur le passé, sur l'histoire, c'est important.
Il y avait un clocheton, mais il a disparu.
On a été une des premières communes qui a eu un camp à Reillanne. On a été une des premières communes à avoir une plaque grâce à la détermination de Thérèse Dumont en 94. Alors Thérèse Dumont, c'est une personne une résistante, qui était jeune résistante puisqu'elle avait, je crois, 18 ou 19 ans en 1944. Et qui a beaucoup œuvré dans le département pour justement ce devoir d'histoire. Et donc elle est ici aujourd'hui.
Madame Thérèse Dumont.
Oui.
Quel âge vous avez ?
98. Dans 2 ans, je serai centenaire. J'espère.
On va aller voir la plaque, le chemin le plus court, c'est par où ?
Il y a 30 ans, vous veniez ici, dans cet ancien camp, pour inaugurer une plaque. Vous vous souvenez ? Vous êtes très ému.
Oui, il y a déjà 30 ans. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Hein.
Vous vous êtes battu pour cette plaque à l'époque ?
Bah, oui, toujours plus ou moins. Il y a des gens, ça dérange. Hein.
Et vous avez beaucoup œuvré dans une association sur la résistance ?
Oui, Basel 39-45, une mémoire vivante.
C'était le nom de votre association ? Vous êtes intervenu aussi dans des lycées, dans des collèges ?
Ah, oui, oui, bah oui. Bah, parce que si on ne veut pas que ça revienne, il faut savoir, hein, connaître la vérité. Hein.
Ma maman, Thérèse Dumont, qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, très jeune, dans un réseau de femmes.
Dans le Pas-de-Calais.
Dans le Pas-de-Calais, avec sa mère et avec sa sœur, et d'autres dont beaucoup ont disparu, déportés, assassinés. Quand elle a pris sa retraite et elle est venue s'établir dans les Alpes de Haute-Provence, elle a voulu reprendre le cours de l'histoire, en quelque sorte, ce qui s'était passé dans la résistance en zone occupée dès le début de la guerre, mais aussi dans les Alpes de Haute-Provence, dans les basses Alpes. Et elle a fait des recherches, notamment, que personne n'avait jamais entreprises, sur les convois de déportés partis des Alpes de Haute-Provence en particulier, et les camps d'internement et de déportation, dont le camp de Reillanne. Et elle a fait un travail que personne n'avait pu ou n'avait voulu faire. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait aussi des collaborateurs et des pétainistes. Évidemment, dans certains villages, remuer l'histoire, c'était très mal vu. Et on préférait garder une chape de plomb sur le passé pour ne pas mettre en difficulté des descendants qui, évidemment, n'y sont pour rien, mais qui auraient eu du mal à porter ce fardeau de l'histoire. Tout cela n'est pas fini, l'antisémitisme perdure, le racisme existe toujours, les risques des extrêmes existent toujours. Donc c'est très encourageant de voir qu'aujourd'hui, la mémoire est en quelque sorte rajeunie. Enfin, on se souvient de ce qui s'est passé et on dévoile une nouvelle plaque puisque ce lieu, ce couvent est devenu un lieu privé et les propriétaires ont eu la bonne idée d'accepter l'idée de d'apposer une seconde plaque dans l'espace public pour que tout le monde puisse savoir. C'est le devoir de mémoire qui s'impose parce que le risque est toujours là.
Sur votre droite, les jeunes.
Vous avez visité déjà l'ancien camp ?
Et non, donc ça va être une première. Alors, je suis professeur de lettres histoire, Monsieur Soulard David, au lycée des métiers Louis-Martin Brett, donc sur Manosque. Et puis donc aujourd'hui, nous sommes au couvent du Mas des Prés sur Reillanne. On a véritablement décidé d'essayer de travailler sur comment travailler sur l'histoire locale avec nos élèves et les rapprocher de cette histoire qu'ils méconnaissent le plus souvent.
Comment vous appelez ?
Loris. Moi là j'ai 15 ans, je suis en première année de CAP métallerie.
Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce travail que vous ne saviez pas?
J'ai appris déjà l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, j'ai appris des choses que je savais pas. Et ensuite, dans le métier, j'ai appris comment, par exemple, mettre le scellement pour que toute la plaque, elle tienne. Et ensuite, j'ai beaucoup soudé, et voilà.
Et vous saviez qu'ici, il y avait eu des personnes internées, des juifs déportés ensuite?
Non, ça, je ne savais pas, mais du coup, maintenant, je sais.
Nous y allons. Allez. Les jeunes, on y va? Venez, venez, venez.
Nous entrons donc dans cet ancien couvent qui a été le camp de détention de Rayan. Vous pouvez décrire?
Ah bien, c'est un couvent en fait, hein, véritablement. Au départ, c'était un lieu de prière. Donc, il avait été occupé jusqu'à à peu près il y a une trentaine d'années. Hein, et lorsque les internés avaient été conduits dans ce lieu tristement marquant pour la commune, en fait, véritablement, ils vivaient dans des conditions terribles, difficiles. Ben, sans eau, sans électricité, sans eau courante, hein, en soi. Tout était en autogestion, si ce n'est qu'ils étaient surveillés, en soi. Hein. Il ne faut pas voir ces camps d'internement avec, comme on retrouve en Pologne, par exemple, hein, ou au Strotov, par exemple, en France. Mais il n'en restait pas moins, quand même, qu'ils étaient surveillés. Voilà. Et ils étaient mis à contribution pour un certain nombre de travaux. Ça pouvait être, par exemple, des travaux agricoles, ça pouvait être des travaux que les administrés pouvaient demander directement. Et puis, c'est une histoire invisible, hein, c'est une histoire, justement, où on veut absolument redonner mémoire à ce lieu et redonner aux mémoires à ces personnes qui étaient internées, puisque quand on rentre dans ce lieu, on ne peut absolument pas deviner qu'il y avait justement des juifs étrangers indésirables. C'était bien entendu le vocabulaire de la France de Vichy à l'époque.
Je suis Anne-Marie Gerbier, mon mari est peintre. Nous vivons à Montjustin depuis les années 77-78. Donc, je suis née avant la guerre, 1939, en février, et je venais passer régulièrement des vacances d'été donc dans une petite maison de Cérès.
Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui à cette cérémonie?
Oh là là, parce que j'étais choquée de savoir qu'il y avait eu un camp avec des juifs envoyés à Auschwitz.
Est-ce qu'aujourd'hui, 80 ans après la fermeture de ce camp, est-ce qu'on en parle encore à Rayan, à Montjustin, à Cérès? Est-ce qu'on parle de cette histoire?
Non, on a commencé à en parler donc dans les années 94, je pense, où on a mis la première plaque. Et les gens de ma génération ressentent ce que je ressens, cet étonnement, je dirais pas tabou, pas une culpabilité, mais c'était moche. C'était terrible de savoir qu'on a laissé ces vieillards, ces enfants, avoir froid, avoir faim. Il y a quelque chose de lourd, d'avoir vécu insouciant, joyeux, à côté de cette misère.
Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui d'assister à la cérémonie?
Je dois dire que j'ai eu les larmes aux yeux à l'énoncé des noms, parce que ça rendait ces juifs présents et proches.
Lydia Lipia, Van Garten, 2 ans. Léo Weil, 74 ans. Paula Weil. Heinrich Zimmern. Anna Zimmern.
Imre Lövinger. Betty Moses. Erna Neukircher.
De ces 54 déportés,
trois ont survécu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés directement à la chambre à gaz comme les enfants et les vieillards, mais ont été mis au travail dans le camp. Heureusement pour eux, en 1944, il restait peu de mois. Et donc trois ont survécu. Le docteur Bronstein, Sigmund Bronstein, Wima Singer et Fritz Siegel. Donc trois et tous les autres sont morts.
Annette Becker, dans votre dernier livre, Des Juifs trahis par leur France, vous parlez de ce camp de Rayan qui fait partie des petits camps. Pourquoi l'avoir choisi?
Rayan, c'est au départ un peu le hasard. C'est en cherchant des documents que j'ai trouvé une carte postale d'une Autrichienne qui était dans ce camp. Et je ne savais pas qu'il y avait un camp ici, puisque tout ça était assez peu connu. Elle envoyait une réponse remerciant quelqu'un en Suisse pour lui avoir envoyé un colis.
Et d'ailleurs, sur cette carte postale, il y a des symboles de ce système nazi.
Oui, tout à fait. Les symboles sont d'une part le timbre avec le maréchal Pétain et d'autre part, il y a une swastika. Ça m'a interpellée. J'ai commencé ces recherches et je me suis dit que pour ce livre, c'était, hélas, un magnifique exemple de ce qui peut arriver à des gens qui ont cru qu'ils pourraient s'échapper par la France des droits de l'homme, mais qui malheureusement sont pris en 1940 dans la défaite de la France et dans le choix du gouvernement français de la collaboration. Aujourd'hui, la nouvelle plaque, c'est avant tout une plaque d'archives. Il y a le déroulement de la RAF qui, à l'époque, a été tapé à la machine et envoyé aux autorités pour montrer que tout allait bien, que ça s'est très bien passé. Et cette archive est particulièrement atroce parce que celui qui dirigeait le camp, qui était un ancien officier de l'armée française, qui faisait son travail de directeur autant qu'il le pouvait, mais qui, de toute façon, une fois les nazis arrivés dans le camp, il pouvait absolument rien faire, mais il s'est pas opposé, mais même s'il avait voulu s'opposer, il aurait été arrêté, c'est tout. Et donc, il écrit la rafle qui a commencé de façon brutale, s'est ensuite terminée dans la plus grande humanité. Et cette formule vous donne envie de hurler.
Pour travailler sur les archives, vous avez été aidé aux États-Unis, notamment au mémorial de l'Holocauste à Washington. Vous pouvez nous présenter Jeanne Lambert.
Jeanne Lambert, c'est une des historiennes du mémorial. Et c'est à elle, par exemple, que j'ai envoyé la première carte postale, celle de Wilma Singer. Et elle a trouvé tout le circuit de cette carte postale. Elle vivait en Autriche. Au moment de l'Anschluss, elle fuit avec sa sœur, sa nièce, toute petite, et sa mère. Wilma reste avec sa mère très âgée et là, elles vont aller de camp en camp, depuis Nice jusqu'à Rivesaltes, de Rivesaltes à Nexon, à Gurs, à Massebeu. C'est incroyable le nombre de camps qu'elles font. Et puis, en 1942, elles arrivent à Réanne. Elles sont raflées le 12 mai 1944. La mère meurt à Auschwitz. La fille survit et à ce moment-là, elle décide de rejoindre sa sœur et sa nièce aux États-Unis. Et là, Jeanne Lambert, l'archiviste du mémorial de Washington, a même trouvé sa demande de naturalisation américaine qui est dans le livre et c'est un document extraordinaire.
Yes, I helped Annette to decipher.
Oui, j'ai aidé Annette pour cette carte postale.
It was written in German, I believe.
C'était écrit en allemand, il me semble.
Jeanne Lambert, c'est la première fois que vous venez ici à Réanne, devant ce camp. Qu'est-ce que ça vous a fait de le découvrir?
I've heard a great deal about this village and also the site.
J'ai beaucoup entendu parler de ce village et de ce site. On a une carte postale au musée de l'Holocauste qui est la dernière communication envoyée par Betty et Nathan Moses, qui sont parmi les derniers déportés, disant à leur fille qui avait réussi à s'échapper en Suisse, on part, on ne sait pas où on va.
It's just been a kind of experience on paper for me before, or on microfilm. Or on digital images.
Pour moi, c'était une expérience plutôt sur papier, sur microfilm ou images numériques. Et Annette m'a parlé de cet événement et j'avais envie d'y participer et de voir le site. J'ai fait un peu de recherche pour elle à Washington dans notre extraordinaire fonds d'archives. J'avais hâte de voir quelle place ce site avait trouvé au sein de la communauté Ariane.
Et quel genre d'archives avez-vous retrouvé?
We have an immense collection of what remains of some of the camp
records. On a une immense collection d'archives de ce qu'il reste des rapports des camps produits par les nazis et les collaborateurs. C'était une première source. On a aussi des documents datant de l'après-guerre, quand les familles retraçaient le parcours de leurs proches. On a également retracé le parcours de la famille de Wilma Singer. Sa mère était ici avec elle, elle avait un autre nom, mais elle a aussi fait partie de cette dernière déportation. Et elle avait une sœur à Nice qui a réussi à s'échapper au Portugal.
And one of the resources
Une des sources qu'on a utilisées, ce sont les documents d'immigration, comme les registres de bateaux, les dossiers de demande de citoyenneté aux États-Unis. Il y a une photo magnifique de Vilma Singer dans le livre d'Annette Baker, la montrant dans sa demande de citoyenneté américaine. C'est difficile de retrouver ce qui lui est arrivé à Auschwitz. Beaucoup de ces documents ont été détruits par leurs persécuteurs pour ne laisser aucune trace.
Imre Löwinger, Betty Moses, Erna Neukircher, Kurt Neukircher, Sija Orenstein, Israël Orenstein, Selma Orenstein, Frida Polak, Marie Rittensporn, Jules Schwartz, Paul Schwartz, Salomon Sevi, Fritz Ziegel, Liesel Ziegel.
Merci à Daphné Gastaldi pour ce reportage de Rayan Auschwitz, 54 juifs étrangers, internés, déportés. Seuls 3 d'entre eux ont survécu, tous les autres ont été assassinés dans le camp d'extermination d'Auschwitz, comme la mère de Vilma Singer. Puisque la spécificité du camp d'extermination d'Auschwitz, Annette Baker, c'est de procéder à une sélection des juifs dès l'arrivée des wagons sur la rampe. Quel tri est opéré à ce moment-là ?
C'est très simple. L'essentiel de ceux qui sont jugés incapables de travailler, ou même tous ceux qui sont jugés incapables de travailler, sont envoyés directement à la chambre à gaz. Et ceux dont on pense qu'ils pourront travailler dans les conditions très très dures du travail forcé, dans les différentes entreprises qui sont sur l'immense complexe qui est celui d'Auschwitz-Birkenau, sont envoyés de l'autre côté pour travailler. Et c'est d'ailleurs ceux-là qui vont être tatoués et immatriculés. Tous les autres n'ont jamais été immatriculés. Donc, ils sont passés de là où ils venaient. En l'occurrence, on les connaît via Drancy quand ils venaient de la France. Mais dans tous les pays d'Europe d'où ils venaient, il y avait des listes qui étaient établies. Et puis ensuite, ils disparaissent en fumée et en cendres.
Et
il n'y a plus rien.
Ceux qui restent travaillent. En moyenne, entre 15 et 40 ans, et peuvent mourir très très vite, évidemment. Comment écrire l'histoire d'Auschwitz 80 ans après ? Question ô combien difficile à laquelle tente de répondre l'historien et directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Siwiński. Nous sommes allés le rencontrer en Pologne, dans le musée, sur les lieux mêmes de l'ancien camp d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'un million d'êtres humains ont été assassinés.
Ce qui m'a frappé à un certain moment, il y a déjà pas mal d'années, c'est que tous les ouvrages sur Auschwitz, en fait, presque tous, ne parlaient essentiellement que du factuel. Alors que Auschwitz ne peut pas se... Je veux dire, le vrai fond d'Auschwitz n'est pas dans les dates ou dans les grands chiffres, etc., dans le quotidien historique. Mais le vrai fond, il est dans ce qui est humain, dans ce qui est déshumanisé, dans l'expérience humaine. Et je me suis dit que je vais essayer, dans ce cas, de le traiter d'une manière monographique, historique, scientifique, oui, mais en se penchant justement uniquement à ce que devenait l'être humain à l'intérieur du camp, et en se basant sur ce que nous ont donc laissé les survivants. Mais en se forçant, je dirais, à s'appuyer vraiment sur ce que eux, ils ont décidé de nous dire, de leur donner la voix. Nous sommes tous habitués au monde que l'on connaît. Le temps, l'espace, l'être humain, les relations humaines, certaines hiérarchies sociales, etc., le respect, les droits de l'homme, etc., ce sont des choses qui nous semblent absolument immuables. Eh ben non. L'on peut arriver dans un monde où est l'espace, est le temps, est l'humanité elle-même de la personne, avec toute la dignité qui en résulte, peut disparaître en un instant. L'arrivée dans un monde comme ça, insoupçonné, de voir que des recours à ce que l'on se souvenait du monde que l'on vient de quitter, que ces recours ne comptent pour rien, voire même peuvent entraîner des dangers, constitue un choc très très puissant. Si on regarde la plupart des livres des survivants, je pense que un cinquième ou un quart du livre raconte la première journée ou les deux premières journées, indépendamment de la longueur du temps qu'ils ont passé dans le camp. Cela montre très bien que ce début est un choc complet. Pratiquement tous les tabous étaient brisés. Je veux dire, dès l'arrivée, ceux qui étaient sélectionnés vers le camp devaient se déshabiller, par exemple, pour que les SS leur prennent toutes leurs, je ne sais pas, montres, bijoux, habits, etc. Ce qui, surtout pour des femmes, et surtout pour des femmes venant de milieux orthodoxes, c'est un choc terrible. Je veux dire, se déshabiller devant des hommes, se faire raser par des hommes inconnus, ça constituait un choc à la limite de ce qui pouvait être imaginable. La seule chose qui demeurait, c'était cette famine croissante et cette peur qui ne s'arrêtait pas. Je veux dire, la question n'était pas de survivre jusqu'à demain, la question était de survivre dans le quart d'heure qui vient. Le danger était imminent, la mort était omniprésente, tout près, quelqu'un mourait à pratiquement chaque moment, les corps étaient partout. C'est quelque chose qui est assez difficilement imaginable, mais c'est très très bien, profondément, j'allais dire presque minutieusement, décrit par certains. Je crois que l'omniprésence de la mort est une des clés. Cette omniprésence, elle n'est pas seulement physique. Je veux dire, ce n'est pas le fait que l'on s'endort à côté de quelqu'un sur un lit et puis bon, le matin il est mort, mais c'est aussi cette sensation très profonde qu'à chaque moment on est pratiquement sur le pas même de franchir soi-même ce moment où la mort nous guette à tout instant. C'est-à-dire, ça peut arriver à tout moment. Et c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre eux, était absolument exténuant. Je veux dire, cette conscience qu'en fait, ils ne sont plus vraiment des êtres humains, et ils ne sont plus vraiment vivants. Tout au plus, ils survivent, mais ils savent qu'au bout de ce chemin, il y aura sûrement la mort. Très peu d'entre eux pensaient qu'ils allaient quitter le camp à la fin.
La voix de Piotr Sewinski dans La Marche du Monde, auteur de Auschwitz, monographie de l'humain, entre les oreilles de notre invitée historienne Annette Becker, spécialisée dans l'étude des deux grandes guerres et des génocides des 20e et 21e siècles. Piotr Sewinski s'intéresse aux témoignages des survivants pour écrire l'histoire du camp d'extermination d'Auschwitz, car, dit-il, nous les historiens n'avons pas suffisamment écouté les témoins. Quelle réflexion cela vous inspire, Annette Becker ?
Je crois qu'il a raison, mais je ne crois pas que ce soit les historiens qui soient en cause. C'est le monde entier qui est en cause. Parce qu'en 1945, on n'a pas compris ce qui s'était passé pour les Juifs. On a su que les nazis étaient atroces, on a parlé des camps de concentration, mais on n'a pas compris qu'il y avait des sites d'extermination et que ces sites d'extermination étaient réservés aux Juifs et aussi en moins grand nombre, mais aussi aux Tziganes. Donc, tous ceux auxquels on pensait, les résistants, par exemple, on comprenait l'atrocité du système concentrationnaire, mais on ne comprenait pas ce qui s'était passé avec les Juifs, ce qui n'empêche pas qu'il y avait des Juifs résistants et que ceux-là ont été traités différemment des autres résistants. Et je crois que ce que dit Piotr, qui est un historien médiéviste au départ, et je trouve que c'est intéressant parce que la culture matérielle, la culture affective du Moyen-Âge, on est bien obligé de la reconstruire quand on est historien.
Et je dirais qu'il s'y prend un peu de la même façon pour le camp d'Auschwitz. Je me le rappelle un jour, une visite avec lui, où on avait trouvé une pomme de douche quelque part dans le camp. Et évidemment, c'était une pomme de douche qui servait à dissimuler le système de gaz pour faire croire aux Juifs qui arrivaient dans les chambres à gaz qu'ils allaient prendre une douche. Et il était là avec cet objet et toute l'horreur du monde était là. Et quand je l'entends parler, je me rappelle ce moment et je me rappelle aussi que il n'en a pas parlé là, mais c'est souvent quelque chose qu'on évoquait. Il y a tous les sens en éveil dans ce cas-là, mais on ne pouvait pas sentir l'odeur, par exemple. Et les prisonniers du camp, les déportés, ceux qui avaient survécu pour un quart d'heure, pour un jour, pour 10 jours, ils vivaient constamment dans cette odeur, puisque après la chambre à gaz, les corps étaient portés dans les fours crématoires et que donc ils brûlaient, que ça sentait une odeur épouvantable, évidemment. Et en plus, il y avait toute la pourriture des corps qui traînaient partout parce qu'il y avait tellement de morts que les brigades de la mort qui étaient censées les ramasser, les emmener dans les fours crématoires, ils n'arrivaient pas à aller assez vite. Donc, vivre au milieu de la mort tout en sachant que sa mort à soi, c'est pour très bientôt, je pense que cela, les hommes du monde entier n'étaient pas prêts à le comprendre en 1945. Pourtant, on leur a montré des choses, on leur a montré les images des survivants émaciés, de ces enfants devenus fous d'horreur. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne ce que cela représentait. Et je trouve que Piotr Sivinski le dit très bien.
Être à l'écoute des témoins, leur offrir un espace d'expression, les enregistrer, c'est ce que Catherine Bernstein a fait il y a 20 ans lorsqu'elle a participé à la collecte de témoignages de 44 survivants d'Auschwitz avec Lina. 20 ans plus tard, Catherine Bernstein signe une série documentaire magistrale en 5 épisodes à partir de ces 44 récits de survivants dont elle a su faire un grand récit à 44 voix pour l'histoire.
Je suis devenu le numéro A16728. Le voilà.
Je crois que dans ma tête de gamin, j'ai l'impression que ma vie elle allait basculer parce que sur le quai se trouvaient les SS, les matraques, les crosses de fusil tournées vers nous.
J'ai fait une crise des larmes énorme parce qu'on était assis sur nos lits et puis je voyais toutes ces filles-là avec les têtes rasées dans un tel état, et je me suis dit, chacune de ces filles, de ces femmes, a une maison, avec des lits, une vie confortable.
On voyait défiler tous les commandos qui allaient travailler. Et je me souviens de quelqu'un à côté de moi qui disait, mais ce sont des morts vivants. C'était toutes des filles jeunes, raves, des yeux qui n'avaient pas de regard, un visage blanc, fermé.
C'est un univers où on ne vit pas au jour le jour, mais à la minute la minute.
Parce que dans cette vie de camp, il va y avoir des sélections, n'importe quand, à tout moment, potentiellement, il peut y avoir une sélection.
Il y avait des camions qui circulaient tous les jours dans le camp et ils raflaient tous les gens qui étaient jugés incapables de travailler, ils les emmenaient à Birkenau, on les gazait et puis c'était terminé.
Une des grosses souffrances, c'est de penser qu'on mourrait tellement loin de chez soi, dans l'indifférence, et sans que personne ne sache ce qui vous arrivait.
La bande-annonce de la série documentaire Auschwitz, des survivants racontent, réalisée par Catherine Bernstein, un documentaire en 5 épisodes thématiques, diffusé sur France 2 le lundi 27 janvier à 21h10. dans lequel, je dirais, Catherine Bernstein donne un nouveau sens à une archive exceptionnelle que vous connaissez très bien, Annette Becker. Est-ce que cela veut dire que l'on peut dire ce monde qui n'est pas notre monde et qui a été cet enfer de la déshumanisation créé par les nazis à Auschwitz? Je vous pose cette question parce qu'on a tellement entendu dire que ce n'était pas dissible.
Je pense que c'est parfaitement dissible. Je pense que le monde l'a trouvé inaudible pendant très très longtemps. Et je me rappelle de survivants en racontant que quand ils sont rentrés, pour ceux qui avaient la chance d'avoir encore des proches, quand ils essayaient de raconter, soit on leur demandait de se taire, et c'était pourtant des proches, mais c'était tellement insupportable, soit certains s'évanouissaient. Ils ne pouvaient pas entendre. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on puisse les écouter avec précision. Et il a fallu aussi de très grands écrivains qui ont raconté leur temps de camp et qui l'ont raconté avec des mots de survivants, mais aussi des mots d'écrivains. Je pense évidemment à Primo Levi ou à Kertész, le Hongrois. Ils ont sublimé l'horreur par la littérature et en croisant cette littérature avec les récits des survivants anonymes, je crois que aujourd'hui, on peut vraiment s'approcher de cette réalité. La vivre, heureusement, on n'y arrivera jamais.
En tout cas, c'est votre volonté aussi d'historienne, votre voix d'historienne des souffrances et des cultures du désastre, vous-même héritière de la catastrophe qui a atteint votre famille. Il faut lire votre livre, « Des Juifs trahis par leur France », aux éditions Gallimard. Merci. Annette Becker.
Merci à vous.
Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, réalisé avec Sophie Janin, Daphné Gastaldi, Gélia Pevsner et Cyril Etienne. Retrouvez les livres, les films et toutes les références de cet épisode sur notre page RFI.fr. Abonnez-vous à notre podcast sur notre appli RFI Pure Radio, rubrique Histoire. Réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.